L'Esprit du Christ par Andrew Murray. L'Esprit nouveau et l'Esprit de Dieu. Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Ézéchiel 36, 26, 27. Dieu s'est révélé à nous dans deux économies successives. La première était un temps de promesses et de préparation, la seconde est le temps de l'accomplissement de ces promesses. Sous l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu descendait à de certains moments sur les hommes et agissait en eux du dehors au dedans, tandis que sous la nouvelle alliance, le Saint-Esprit entre en l'homme et demeure en lui, opérant du dedans au dehors. Dans le premier cas, l'Esprit est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Saint. Dans l'autre, il est l'Esprit du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La promesse que nous transmet Ézéchiel expose d'une manière frappante les deux grâces successives que Dieu accorde par son Esprit. Nous lisons d'abord « Je mettrai en vous un esprit nouveau », c'est-à-dire que l'esprit de l'homme sera renouvelé par l'esprit de Dieu, et quand ceci a eu lieu, vient aussi l'autre grâce promise « Je mettrai mon esprit au-dedans de vous », c'est-à-dire que l'esprit de Dieu viendra demeurer dans l'esprit renouvelé. Quand Dieu veut habiter quelque part, il faut qu'il ait une demeure. De même pour nous un nouveau cœur, un esprit nouveau nous sont donnés comme condition indispensable à la présence de l'esprit de Dieu en nous. Notre esprit renouvelé devient la demeure du Saint-Esprit de Dieu, et celui-ci tout en restant distinct de notre esprit, témoigne en lui, avec lui et par lui. Il est facile de reconnaître l'importance de cette distinction. Elle nous fait comprendre le rapport qui existe entre la régénération et l'habitation en nous du Saint-Esprit. Par la régénération, le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, nous amener à la repentance, à la foi en Christ, et nous donner une nouvelle nature. Mais c'est seulement quand le croyant saisit la promesse de Dieu tout entière, quand il croit qu'il y a, pour lui, quelque chose de mieux, encore que la nouvelle nature, quand il comprend que l'Esprit du Père et du Fils veulent réellement habiter le temple préparé en lui, que s'ouvre pour lui toute une merveilleuse perspective de sainteté et de grâce nouvelle. Ces deux parties de la promesse divine s'accomplissent-elles, simultanément ou successivement? De la part de Dieu, ce double don est simultané. L'Esprit ne peut pas se partager. En nous donnant son Esprit, Dieu se donne lui-même à nous avec tout ce qu'il est. C'est ce qui eut lieu le jour de la Pentecôte. C'est après avoir cru et confessé leurs péchés, sous l'influence de leur Esprit renouvelé, que ces nouveaux convertirent sur le baptême du Saint-Esprit, la présence de l'Esprit en eux. Il en est encore de même dans les temps de réveil, lorsque l'Esprit de Dieu agit avec puissance. Actes 8, 5, 14-17. 19, 2. L'Esprit commence par agir sur l'homme, et en lui par des paroles et des faits, avant d'entrer et de demeurer en lui. Il faut toujours distinguer entre l'action de l'Esprit en l'homme, et son habitation en lui. Au-dedans de vous. Cette expression est un des traits distinctifs de la nouvelle alliance « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur ». Jérémie 31, 31, 33. Dieu avait créé le cœur de l'homme pour y habiter. C'est au-dedans de nous que nous devons chercher l'accomplissement de la nouvelle alliance. L'Esprit même de Christ doit être en nous puissance de vie. Ce n'est pas seulement au calvaire, ou à la résurrection ou sur le trône de Dieu, que doit se voir la gloire du Christ vainqueur, c'est aussi dans notre cœur. C'est au-dedans de nous, oui, au-dedans de nous que se manifeste la véritable gloire de sa rédemption. Ô mon Dieu, je te remercie de cette double grâce. Je te remercie d'avoir édifié en moi un temple saint et merveilleux où tu veux habiter, de m'avoir donné un esprit nouveau. Je te remercie aussi de la présence encore plus merveilleuse de ton esprit divin, que tu fais habiter en moi pour me révéler la présence du Père et du Fils. Ô mon Dieu, je te prie d'ouvrir mes yeux sur ce mystère de ton amour. Que ces mots au-dedans de vous m'amènent à reconnaître avec crainte et tremblement ta condescendance pour moi et que tout mon désir, soit de voir mon esprit devenir réellement la demeure de ton esprit. Que ces mots élèvent à toi mes regards avec la sainte confiance qui saisit tout ce que comprend ta promesse. Ô mon Père, je te remercie de ce que ton esprit demeure en moi. Que sa présence se manifeste avec puissance en moi en me donnant une communion vivante avec toi. Amen. L'esprit nous est envoyé et pour construire le temple et pour l'habiter ensuite. Impossible d'habiter une maison avant qu'elle soit bâtie. Quand le Saint-Esprit bâtit son temple, c'est pour l'habiter lui-même, il faut qu'il y ait accord entre la maison et celui qui l'occupe. Le Saint-Esprit est l'essence même du Père et du Fils. Mon esprit est ce qui constitue mon individualité. C'est lui que le Saint-Esprit vient renouveler pour en faire sa demeure et le remplir de sa présence. L'Esprit de Dieu devient ainsi pour moi ce qu'il était pour Jésus sur la terre, la vie même de mon individualité. Avec un saint recueillement, avec un saint respect, je me prosterne devant toi, ô mon Père, pour te dire je te rends grâce, ton Saint-Esprit demeure en moi, au-dedans de moi-même. Le baptême de l'Esprit. J'en rendis encore ce témoignage et dis, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean 1, 32, 33. La prédication de Jean-Baptiste parlait de Christ comme de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et comme de celui qui baptiserait ses disciples du Saint-Esprit et de feu. Jean 1, 29. Luc 3, 16. Le sang de l'agneau et le baptême de l'Esprit, voilà les deux vérités centrales de la profession de foi et de la prédication de Jean-Baptiste, elles sont en effet inséparables. Le péché n'entraînait pas seulement culpabilité et condamnation, mais corruption et mort. Non seulement il faisait perdre à l'homme la faveur de Dieu, mais il le rendait indigne de communion avec Dieu, et sans cette communion intime, l'amour divin qui avait créé l'homme ne pouvait pas être satisfait. Dieu voulait réellement nous avoir tout à lui, il voulait que notre cœur, nos facultés aimantes et tout ce qui constitue notre individualité lui fût une demeure, où pût habiter son amour, un temple où il fût adoré. La prédication de Jean-Baptiste embrassait donc la rédemption tout entière, du commencement à la fin. Le sang de l'agneau devait purifier le temple de Dieu et rétablir son trône dans le cœur de l'homme, mais ensuite il ne fallait rien moins que le baptême du Saint-Esprit, que son habitation dans le cœur, pour satisfaire soit Dieu, soit l'homme. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Cette parole s'adresse à nous, aussi bien qu'à Jean. Tout ce que Jésus nous donne, il a commencé par le recevoir lui-même et se l'approprier personnellement, et tout ce qu'il a acquis est à nous, il veut que nous le possédions, nous aussi. Celui sur qui nous voyons l'Esprit s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Ce baptême, c'est l'Esprit même de Christ, qui vient demeurer en nous avec la suprême puissance de sa nature glorifiée, c'est l'Esprit de vie de Jésus-Christ, qui nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2, c'est l'affranchissement du péché, que Christ nous a acquis par la rédemption. Demandons au Père de nous révéler tout ce que son amour a encore à nous donner, demandons-le lui jusqu'à ce que notre cœur soit tout plein de cette promesse, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Demandons-le en renonçant à nous-mêmes. Pendant 3 ans Jésus a préparé ses disciples à ce baptême, et ce n'est qu'après cette école préparatoire que cette grâce leur fut accordée. Soyez, vous aussi, son disciple obéissant et docile, confiez-vous en lui, et vous serez ainsi préparés à recevoir le baptême de l'Esprit. Seigneur Jésus, de tout mon cœur je t'adore, toi qui es assis sur le trône de Dieu et qui baptise du Saint-Esprit. Du haut de ta gloire daigne te révéler à moi et me faire connaître tout ce que je puis attendre de toi. Je te remercie de m'avoir appris par ta propre vie quelle est la préparation nécessaire pour être rempli du Saint-Esprit. Pendant ta vie terrestre à Nazareth, l'Esprit était toujours avec toi, mais ce n'est qu'après avoir voulu accomplir tout ce qui est juste Matthieu 3, 15, qu'après avoir reçu le baptême de Jean, qu'après t'être ainsi solidarisé avec les pécheurs, que tu venais sauver, que tu as reçu du Père une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Ce baptême fut pour toi le sceau de son amour, la révélation de sa présence en toi, la force nécessaire pour le servir. Et à présent toi, sur qui est descendu l'Esprit, toi, en qui il demeure, tu fais pour nous ce que le Père a fait pour toi? Nous t'en bénissons. Amen. Que notre foi saisisse toujours les deux vérités inséparables, que Jean-Baptiste a prêché Jésus, l'agneau qui ôte les péchés, Jésus, loin de Dieu qui baptise du Saint-Esprit. C'est par ce que Jésus a versé, sans qu'il a reçu la puissance de communiquer le Saint-Esprit. Ce n'est que là où on prêche la croix de Christ, que le Saint-Esprit opère. Ce n'est qu'en croyant au sang, qui purifie de tout péché, ce n'est qu'en ayant la conscience purifiée par le sang de Christ, que je puis recevoir l'onction de l'Esprit. L'adoration en esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. L'adoration élève l'homme au plus haut degré possible. Tous les exercices de la vie religieuse, méditation, prière, amour, foi, consécration et obéissance, tout se trouve réuni dans l'adoration. Reconnaître ce qu'est Dieu dans sa sainteté, sa gloire et son amour, réaliser ce que je suis, Moi, créature déchue, et pourtant l'enfant racheté du Père, voilà ce qui me porte à me présenter devant Dieu pour lui offrir l'adoration qui lui est due. L'adoration consiste à se rapprocher de Dieu le plus complètement possible. L'adoration comprend tout sentiment et tout service religieux. Elle est la plus haute destinée de homme, puisque pour celui qui adore, Dieu a tout. C'est pour adorer que nous avons reçu le Saint-Esprit. Pénétrons-nous bien de la pensée que si Dieu nous a envoyé son Fils et son Esprit, c'est pour que nous l'adorions en esprit et en vérité. En esprit. Quand Dieu a créé l'homme en âme vivante, cette âme, siège naze et organe de son individualité et de sa conscience, se trouvait rattachée par le corps au monde extérieur, et visible et par l'esprit au monde invisible et divin. L'âme devait décider si elle se soumettrait à l'esprit, et par là à Dieu et à sa volonté, ou si elle s'allierait avec le corps, cédant par là aux sollicitations du monde visible. À la chute de l'homme, l'âme refusa la domination de l'esprit et devint l'esclave du corps. C'est pourquoi quand Paul parle de l'homme irrégénéré, l'opposant à l'homme spirituel 1 Corinthiens 2, 14, il l'appelle psychique ou animal, c'est-à-dire ne possédant que la vie naturelle. La vie de l'âme comprend toutes nos facultés morales et intellectuelles, même celles qui cherchent Dieu, mais qui le cherchent indépendamment du renouvellement de l'esprit divin. C'est parce que l'âme s'est placée sous le contrôle de la chair qu'il est dit de l'homme qu'il est devenu chair. L'homme n'est que chair. Genèse 6, 3. En esprit et en vérité. Cette adoration en esprit est aussi une adoration en vérité? Ces mots « en vérité » ne signifient pas avec droiture ou sincérité. Le mot « vérité » signifie ici la substance, la réalité et la possession actuelle de tout ce que comprend l'adoration de Dieu, soit quant à ce qu'elle demande, soit quant à ce qu'elle promet. Jean parle de Jésus comme du Fils unique venu du Père. Plein de grâce et de vérité, après quoi il ajoute « car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Jean 1, 14, 17. Impossible de comprendre ici ce mot « vérité » dans le sens contraire du mot « mensonge », car la loi de Moïse était tout aussi vraie que l'évangile de Jésus, l'un et l'autre venant de Dieu. Mais c'est en Christ que nous voyons la vérité, la réalité, la vie, l'amour et la puissance même de Dieu se donnant à nous. Nous comprenons alors aussi que l'adoration en esprit peut seule être une adoration en vérité, et que pour adorer ainsi, il faut posséder cette puissance divine, qui est la vie même de Christ, un avec le Père, vie divine que le Saint-Esprit nous communique et maintient en nous. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tous ceux qui adorent Dieu ne sont pas de vrais adorateurs. Il y a beaucoup d'adorateurs sérieux et sincères qui pourtant n'adorent pas en esprit et en vérité. On peut être très attaché aux vérités bibliques et pourtant ne pas connaître encore l'adoration que Dieu demande parce qu'on reste sous l'influence prédominante, non de l'action de Dieu, mais de l'effort humain. Il faut qu'il y ait accord et communion entre Dieu, qui est esprit, et les adorateurs, qui s'approchent de lui en esprit. Si nous voulons devenir de tels adorateurs, en esprit et en vérité, défions-nous de la chair et de sa manière d'adorer? Comme croyants, nous avons en nous une double nature depuis la chute, la chair et l'esprit. Pour adorer en esprit, il faut marcher par l'esprit. Or vous n'êtes point dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Romains 8, 9. Tandis que l'esprit demeure et règne en moi, je suis dans l'esprit et je puis adorer en esprit. Dieu nous a envoyé l'Esprit de son Fils, l'Esprit de Christ, pour réaliser en nous ce que Christ a été, pour nous communiquer la vie dont Christ a vécu ici-bas. Dieu soit loué. Le temps est venu, et nous vivons dans ce temps-là, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et vérité. Réjouissons-nous dans la confiance que nous pouvons, nous aussi, être de vrais adorateurs, parce que le Saint-Esprit nous a été donné. Avec crainte et respect, réalisons donc qu'il demeure en nous. Dieu très saint. Nous reconnaissons avec confusion que notre adoration a très souvent subi l'influence et la volonté de la chair, et que par là nous ne t'avons pas rendu l'honneur qui t'est dû, que nous avons attristé ton esprit, au préjudice aussi de notre âme. Ô Dieu, pardonne-nous, délivre-nous de ce péché. Veuille nous enseigner à ne plus jamais chercher à t'adorer autrement qu'en esprit et en vérité. Amen. C'est dans l'adoration que le Saint-Esprit atteint le but pour lequel il fut envoyé. C'est dans l'adoration qu'il manifeste plus complètement ce qu'il est. Si je veux sentir fortement en moi la présence de l'Esprit, je dois adorer. L'Esprit prépare l'adoration, et l'adoration prépare à recevoir l'Esprit. C'est la chair qui est le grand obstacle à la présence de l'esprit, c'est donc la mort de la chair qui assure l'adoration en esprit. Une vie d'obéissance à la volonté de Dieu prépare l'adoration. Veuille le Seigneur nous faire sentir profondément toute l'inutilité, toute la culpabilité de l'adoration qui n'est pas en esprit et en vérité. L'esprit et la parole. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 63, 68. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit donne la vie. 2 Corinthiens 3, 6. Nous avons là en quelque sorte une définition de l'esprit. Comparé avec 1 Corinthiens 15, 45, où il est dit que le dernier Adam est un esprit vivifiant. Soit dans la nature, soit dans la grâce, toujours l'esprit est le principe actif qui donne la vie. Notre Seigneur confirme la vérité de ce qu'il venait de dire en ajoutant encore les paroles « Que je vous dis sans esprit et vie » Jean 6, 63. Il voulait ainsi faire comprendre à ses disciples que ces paroles sont une semence de vie, qu'elles possèdent la force de germer et de croître, de prouver leur vitalité, de révéler leur signification et de manifester leur pouvoir divin chez tous ceux qui les reçoivent et les gardent dans leur cœur. Comme ces paroles sont esprit et vie, elles ne s'adressent pas à l'intelligence, mais à la vie de l'esprit. Apportées par la puissance de l'esprit invisible, elles pénètrent au-delà de la pensée, jusqu'aux sources mêmes de la vie, elles contiennent en elles une vie divine qui se révèle avec efficace dans l'expérience de ceux qui les reçoivent. Le Saint-Esprit a donné un corps aux pensées de Dieu par la parole écrite et c'est pour nous en révéler le sens et la force qu'il vient demeurer dans notre cœur. Si vous voulez être rempli de l'Esprit, soyez rempli de la parole, si vous voulez que la vie divine de l'Esprit se développe en vous, qu'elle acquiert force et puissance dans tout votre être, soyez riche en connaissance de la parole. Si vous voulez que l'Esprit vienne vous rappeler à propos, vous citez avec une divine précision les paroles de Jésus pour répondre à vos besoins, que la parole de Christ demeure en vous. Si vous voulez que l'Esprit vous révèle la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de votre vie, que sa parole vive en vous afin qu'il puisse s'en servir. Si vous voulez que la parole éternelle soit votre lumière, il faut que la parole écrite soit gravée dans votre cœur par le Saint-Esprit. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Recevez-les donc, faites en provision, c'est par elles que l'Esprit révèle sa présence et sa vie. Ne recourons jamais à l'Écriture, soit pour la méditer nous-mêmes, soit pour la prêcher aux autres, sans demander le secours du Saint-Esprit. Quand l'Esprit et la vie s'élancent de l'intérieur à la rencontre de la parole, qui apporte du dehors la nourriture spirituelle, les paroles de Christ sont en effet esprit et vie. Amen. Pour comprendre un livre, il faut que le lecteur sache la langue de l'auteur qui l'a écrit, et dans certains cas il faut encore qu'il soit animé du même esprit que l'auteur. Pour comprendre l'Écriture, nous avons besoin de posséder en nous le Saint-Esprit, qui a inspiré les saints hommes chargés de nous la transmettre. La parole éternelle et l'esprit éternel sont inséparables. Il en est de même de la parole créatrice, et de l'Esprit Créateur, Genèse 1, 2,3, Psaume 33, 6 et il ne saurait en être autrement de la parole, et de l'Esprit pour l'œuvre de la rédemption. Jean 1, 1-3, 14, 33. La parole de Dieu est une semence douée de vie latente, qui demande un sol fertile pour se développer. Luc 8, 11. La parole possède une vie divine? Ne la recevez pas seulement par l'intelligence ou la volonté, mais qu'elle entre dans l'Esprit nouveau, où habite l'Esprit de Dieu. De plus en plus je vois que l'intelligence et la force vivifiante de la parole dépendent d'une communion vivante avec Jésus. Pourquoi tant de chutes dans la vie chrétienne au lieu de la victoire promise? N'est-ce pas parce qu'on cherche la vérité en dehors de la vertu de l'Esprit? Que Dieu me donne de croire ces deux vérités, la parole est remplie de l'Esprit divin et de sa vertu, elle peut agir avec efficace. Mon cœur possède en lui le même Esprit divin, et c'est cet esprit qui doit recevoir en moi la parole, pour qu'elle ait force de vie. C'est de la puissance de l'esprit que me vient la vie. L'esprit est Jésus glorifié qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme le dit l'Écriture. Or il disait cela de l'esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Jean 7, 37-38. Nous avons vu que Dieu s'est révélé de deux manières, comme Dieu sous l'ancienne alliance et comme Père sous la nouvelle alliance. Nous savons aussi que le Fils, après avoir été dès le commencement avec le Père Jean 1, 2, entra dans une nouvelle phase d'existence en devenant chair Jean 1, 14. Lorsque ensuite il remonta au ciel, il était toujours le Fils unique du Père et pourtant il n'était plus le même qu'auparavant, car comme Fils de l'homme, il était le premier-né d'entre les morts, Colossiens 1, 18, Apocalypse 1, 5, revêtu de cette humanité glorifiée qu'il avait sanctifiée parfaitement pour lui-même.